Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Dans le Gratin, mon job est de décortiquer avec vous les clés du succès de mes invités, que ce soit via leur routine de vie, leur philosophie, leur pratique sportive ou alimentaire, leur lecture et de manière générale, la façon dont ces personnalités brillantes font des choix et prennent des décisions. Un petit mot rapide avant de passer à mon invité du jour. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, à me dire merci pour tout ce travail, à me dire qu'il compte pour vous aussi, qu'il vous a même parfois aidé à prendre des décisions et à changer de vie. Alors si je peux me permettre de vous demander un petit service à mon tour, vous savez déjà ce que c'est, je vais vous embêter, mais c'est simplement de laisser un avis ou une note 5 étoiles sur iTunes. Et pour ceux qui ne sont pas sur iTunes, tout simplement de parler du podcast autour de vous, à vos amis, à vos proches, à vos collègues, à tous ceux qui pourraient en bénéficier tout simplement. Vous ne pouvez pas savoir comme ça compte pour moi, et je me dis aussi que ça pourrait tout simplement aider des personnes qui vous ressemblent et qui pourraient apprécier ce travail. Bon allez, assez parlé de ça, j'enchaîne avec mon invité du jour. Aujourd'hui, je reçois sur le gratin Laure de Sagazan. Styliste de formation, ayant fait ses armes chez Bâche ou à La Redoute, Laure crée en 2011 la fameuse marque de robe de mariée éponyme Laure de Sagazan. Dès le départ, tout s'enchaîne très très vite pour Laure. Les commandes tombent, l'univers de Laure capture son temps. Et 8 ans plus tard, elle et son mari Edouard, avec qui elle s'est associée, emploient 40 personnes dans leur atelier situé à Paris et produisent plus de 2000 robes par an, vendues partout dans le monde, notamment dans leur boutique à Paris, mais aussi à New York. Laure est la première styliste que j'invite sur le podcast. J'ai voulu lui donner la parole pour démystifier ce métier souvent rêvé ou fantasmé, pour montrer aussi l'envers du décor d'une marque qui a explosé en quelques années à peine. Laure est une créatrice, une rêveuse, une artiste. Elle le sait et elle l'assume. Dès lors, elle a tenu à répartir les rôles avec son époux Edouard pour que chacun travaille ses forces sans se marcher sur les pieds. Donc avec elle, on a parlé évidemment travail en couple, mais aussi créativité, prise de recul nécessaire, organisation professionnelle et personnelle aussi, car Laure a maintenant 2 enfants en bas âge, littérature ou encore coup de mou. Au-delà de son parcours, j'ai particulièrement apprécié l'humilité et l'honnêteté intellectuelle dont Laure fait preuve. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Laure de Sagazan. Salut Laure, bienvenue sur le podcast.
Salut Pauline, merci de me recevoir.
Bah écoute, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Avant de parler de l'immense aventure Laure de Sagazan, de ta carrière, de ta marque, de travail en couple, de plein de sujets que j'ai envie d'évoquer avec toi, il y en a beaucoup qui m'intéressent. Je voulais commencer par le début. Et revenir aux sources, parce que je n'ai pas encore trouvé suffisamment d'informations sur ton enfant, sur ta vocation, notamment styliste. Et j'ai eu l'impression quand même, en faisant mes recherches sur toi, que ça t'était venu assez tôt et que le stylisme, la mode, l'amour de la couture aussi, c'était venu assez tôt. Est-ce que tu peux m'en parler, m'expliquer si tu as des premiers souvenirs justement de ça?
Alors, j'ai pas mal, en piochant dans les photos, je retrouve pas mal de photos où je suis en train de lire ma Bible, qui est quand même le catalogue La Redoute.
Le catalogue La Redoute, d'accord.
Où j'entourais religieusement tous les modèles qui me plaisaient.
C'est drôle.
Et, ouais. Donc c'est vrai que ça, on est retombé sur des photos il y a pas très longtemps et je me marrais de voir que aussi jeune, j'avais un attrait fringue, ce qui est un peu étonnant.
Et qui n'était pas du tout dans ta famille particulièrement en plus.
Non, pas du tout. Ouais. Alors, c'est sûr que j'ai des parents chineurs qui adorent faire les brocantes et tout ça. Et donc, autant mon père, c'était les bouquins, les tableaux, autant avec maman, c'était clairement plus les vieux vêtements, les vieilles nappes. Donc, c'est sûr que j'ai développé quelque chose, mais je ne pensais pas à ce point que le catalogue La Redoute allait apparaître sur autant de photos. Donc, je suis vraiment toujours allongée dans l'herbe avec mon catalogue, donc en train d'entourer.
C'est drôle.
Et du coup, c'est vrai que très vite, j'ai eu Enfin, ça m'a attirée et je retrouve en effet, j'ai retrouvé une petite collection de robes de mariée que j'avais dessinée. Je sais pas, c'est la collection, je sais plus si c'est 96 ou un truc comme ça, collection 96, et c'est plein de petites robes de mariée.
Et t'avais déjà le style Laure de Sagazan?
Non, c'est vraiment très ringard
être
princesse.
Assez collector,
ouais,
ça doit être
assez collector. Mais j'avoue, je sais que j'ai toujours dessiné des robes un peu princesses et tout ça, mais je pensais pas avoir une collection de robes de mariée. Et ça, je suis retombée dessus, donc c'était assez marrant.
Est-ce que, avec un peu de recul, tu saurais ce qui te plaisait dans la mode et dans la couture?
Alors, qu'est-ce qui me plaisait? J'ai commencé la couture en CE2 ou en CE1.
Ah ouais.
Ouais. Donc ça, je crois que...
C'est hyper rare en plus.
Ouais. Je pense que j'avais... Enfin, j'ai une de mes tantes, c'est certain, qui a toujours fait de la couture. Donc j'ai toujours vu ces tenues qu'elle se faisait. J'étais assez fascinée. Et en plus, je pense qu'avec cette envie de... J'arrêtais pas de chiner des pièces un peu des vieux tabliers. Donc à l'école, j'avais un tablier qui était très long. J'étais hyper fière de mon tablier qui avait un côté complètement rétro, ambiance Downton Abbey, et j'en étais très fière. Donc je pense que toutes ces pièces un peu exceptionnelles qu'on chinait et qui sortaient du lot, ça m'a donné envie de m'y mettre. Donc je crois que c'était en CE2. Je suis sûre que j'ai commencé la couture. Et donc je me faisais des petites chemises de nuit en toile de Jouy, hyper mignonnes.
Ouais,
je me faisais
de côté
des
faire
petits
du
sacs.
Neuf avec de l'ancien, quoi.
Ouais. Ouais, ça me plaisait, et je suis sûre que c'est ma tante Brigitte, je suis sûre qu'elle m'a inspirée.
Écoute, on la salue, on la remercie.
Voilà.
Est-ce que à un moment donné, tu te dis, je sais que je veux en faire mon métier. À quel moment est-ce que tu te dis, en fait, pour moi, la mode, le stylisme, c'est ma vie, quoi.
Ah, bah, je me suis jamais posé la question, c'était évident que j'allais en faire mon métier.
Mmh. Ouais, donc t'avais une vraie vocation.
Ouais, c'est drôle parce que vraiment, ça a été, je me suis jamais posé la question, et c'est vrai qu'en terminale, je me suis dit, c'était un non-sujet, enfin tout. Donc d'un coup, j'ai commencé à remplir les dossiers. Je me suis dit non, mais en fait, je me suis jamais posé la question depuis que j'ai 8 ans. Est-ce que je me plante pas? Et par chance, j'avais mes parents qui me poussaient. Alors ils me poussaient aussi à quand même faire. Moi, j'ai fait une terminale littéraire et j'adorais la littérature. Donc on me poussait quand même à faire. On trouvait ça un peu dommage que je me lance pas quand même d'abord par un canipocan, ouais, ou quelque chose comme ça, dans le sens où c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me plaisait et ça aurait pu marcher. Mais bon, en fait, je me suis jamais posé la question. J'ai été une imbécile heureuse toute ma jeunesse à me dire c'est ça que je veux faire. Et par chance, il semblerait que je me sois pas trop plantée parce que je suis heureuse et j'aime me lever tous les matins. Donc, a priori.
Bah, t'as une chance inouïe. C'est un sujet que j'aime bien parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui rêveraient d'avoir une vocation comme ça. Mmh. Moi-même, tu vois, j'en ai pas eu. Alors, j'ai fait un parcours L aussi. Donc, j'aime plutôt bien tout ce que tu me dis. Ouais. Mais tu vois, typiquement, j'ai pas eu cette étincelle comme toi de me dire, je voulais absolument faire du stylisme et tout. Donc, j'envie beaucoup.
Oui,
Et puis je dois dire que j'envie aussi le fait que tes parents étaient OK avec ça, parce que j'allais te poser la question de leur réaction. C'est pas toujours évident.
Ah bah, spontanément, quand on parle de stylisme, en général, il y a voix de garage qui vient
dans la phrase suivante.
Ouais. C'est hyper bouché, il y a peu d'espoir, il y en a peu qui cartonnent, parce qu'en fait, toutes les écoles font un peu rêver les élèves avec la haute couture, les grandes maisons, mais c'est une minorité qui accède. Ça a pu faire stresser mes parents, mais je sais pas, je pense que ils se rendaient compte que j'avais quand même la tête sur les épaules, que j'étais pas complètement j'avais pas des envies de démesurées. Puis voilà, c'est vrai que moi en plus je suis lilloise, donc il y a un berceau textile à Lille, dans le nord, où il y a vraiment plein de boîtes. Donc moi j'avais pas des grands rêves de haute couture, de très grandes maisons. Enfin moi le stylisme me plaisait et j'avais pas d'idée arrêtée. J'allais voir où ça allait me mener.
C'est le secteur qui t'intéressait.
Exactement.
Donc tu fais des études dans ce secteur-là et tu commences à travailler assez rapidement donc en tant que styliste, si je me trompe pas. C'est pas retour à la Redoute d'ailleurs.
Je suis passée par la Redoute. J'avais fait un stage en lingerie pendant 3 mois parce que j'ai toujours aussi adoré la lingerie. Donc chaque fois je me disais lingerie ou vêtements. Et donc j'ai fait 3 mois à la Redoute. Ça s'est très bien passé. J'avais adoré. Et il s'avère que c'était une année où il fallait faire 2 stages. Et le second, je l'ai fait chez Bâche. J'avais 6 mois de stage. Et j'ai adoré.
Et donc là, en fait, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi les premiers métiers que tu fais quand tu arrives dans des boîtes comme ça, ou peut-être pour ton premier job après? Parce que moi, en tant que non-styliste, si tu veux, je me rends difficilement compte. Mais tu dessines toute la journée, tu cherches des inspirations. Concrètement, à quoi ça ressemble?
Alors après, tout dépend dans quelle maison on tombe. Moi, chez Bâche, on avait le luxe d'être encore, c'était encore le stade de la petite équipe. Il y avait 15 personnes en tout.
Ah ouais.
et deux stylistes. Et donc moi, j'étais la petite main parce que je suis arrivée, j'étais très jeune, je crois que j'avais 23 ans. Mmh. Donc c'était plutôt faire les fiches techniques, ouais. Relever des mesures. J'avais pas une part de créa énorme puisque je démarrais. Mais c'était quelque chose qui me plaisait, parce qu'il y avait un côté couteau suisse, la petite boîte, donc il y avait les ventes de presse à organiser, il y avait, enfin, on touchait à plein de choses. Mmh. On touchait à plein de choses, donc ça, c'est quelque chose qui me plaisait. Je me suis vite rendu compte que ça me plaisait d'être sur le terrain, d'avoir plein de choses à faire. Et en effet, il y a pas mal de phases de recherche où on fait plein de recherches sur ce qui est sorti dans les défilés, les nouvelles tendances.
Ouais, ça, on va en parler. Je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui connaissent le début de l'histoire de ta marque L'Heure de Sagazan, mais est-ce que tu pourrais me rappeler, me réexpliquer ce qui s'est passé, parce que c'est quand même assez fou de se dire que tu passes de, t'as un emploi à l'époque, tu travailles, t'étais, c'est ça, employé chez Bache,
ouais, je crois. J'étais embauchée après, oui. Voilà.
Et en gros, qu'est-ce qui te prend de te dire, je vais lancer ma marque de robe de mariée, et je veux bien ensuite que tu m'expliques aussi les premières étapes, un peu comment est-ce que vous avez fait pour lancer la marque.
Oui. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que donc je suis chez Bache et Mathilde, ma cousine, me demande de faire sa robe. Donc j'ai le goût du défi parce que elle est à ce moment-là en Espagne.
Tu connais rien aux robes de mariée, toi, en plus.
Je connais rien aux robes de mariée. Elle est en Espagne avec peu de retours prévus en France. Et moi, je me sens pas capable de la réaliser moi-même, parce que si j'ai toujours dessiné malgré mes cours de couture, je suis pas modéliste, c'est certain. Et donc elle trouve une modéliste qui est capable de la réaliser, et du coup on commence à une petite correspondance à distance où je lui envoie mes croquis, elle me fait ses commentaires. En fait, on a toujours été assez proches, toutes les deux dans le textile, et on avait vraiment des affinités communes, en tout cas sur le plan de la créa, et je crois qu'à ce moment-là, elle trouve pas dans le prêt-à-porter quelque chose qui peut lui convenir. Il commence à y avoir des mariés un peu plus bohèmes qui émergent. Il y a une créatrice qui fait ça, mais qui est beaucoup vue. Mmh. Et elle a pas forcément envie de passer par cette créatrice. Et du coup, voilà, elle me demande, mais elle a le goût du défi parce qu'elle sait pas du tout ce que je suis capable de
dire
pondre
que c'est quand
à l'époque.
Même assez
je reconnais.
Un peu risqué quand même.
Je reconnais, on en a parlé plus d'une fois après. Ouais. Mais en fait, ça se passe à merveille. La modéliste qu'elle a trouvée pour faire la robe fait la robe qui est splendide. C'est une robe en crêpe georgette, en dentelle de calais rebrodée, pardon. Et du coup, c'est hyper raffiné. On dirait un modèle vraiment ancien, mais pour autant qui est assez moderne, parce qu'avec un dos nu, qui est pas du tout fermé. Et c'est pas du tout la mariée sophistiquée, la surfemme qu'on érige. Sur un totem, là, c'est vraiment la mariée accessible, mais qui a une allure folle parce que un côté bohème et un côté naturel. Cette démarche est pas. Moi, ce qui me chagrinait avec les mariés, c'est que d'un coup, on les mettait sur un piédestal, ça devenait des divas,
ouais,
on pouvait pas approcher
statue,
des poupées, voilà, des statues. Leur démarche n'est pas naturelle parce qu'elles ont des baleines qui leur bloquent les côtes, elles peuvent pas gonfler la poitrine pour respirer. Elles sont un peu endimanchées avec ces robes démesurées. Et moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment de retrouver la personne dans un mouvement un peu fluide qui est son allure. Et donc, la robe de mariée de Mathilde rencontre pas mal de succès, parce qu'après le mariage, j'ai pas mal de demandes. Moi, à ce moment-là, j'ai fait un peu le constat que dans la robe de mariée, il n'y avait pas 1000 options. Mmh. Et quand j'en parle avec toutes mes copines à l'époque, alors on est jeunes, on a, je crois, 20, 23, 25 ans, on se dit que le jour où on se marie, c'est la cata, parce qu'on ne trouve rien. Tout est quand on regarde les affiches du salon du mariage, c'est un sombre cauchemar. Et du coup j'arrête pas de dire à Edouard, donc mon copain de l'époque, j'arrête pas de lui dire, mais je suis sûre qu'il y a un truc à faire dans la robe de mariée, je suis sûre qu'il y a un truc à faire. Et à un moment, je pense qu'il est bassiné de m'entendre répéter ça, et il me dit, écoute cocotte, si t'es sûre qu'il y a un truc à faire, enfin on se lance, mais c'est maintenant. C'est maintenant, parce que toutes nos copines vont bientôt se marier, ça va bouger, donc si tu crois qu'il y a quelque chose, on se penche vraiment dessus. Et donc là, on a commencé. Donc moi, c'est pas moi avec mon petit bac littéraire qui allait me pencher sur des business plans et toute la clique. Donc il a commencé à étudier le marché, à étudier plein de choses, et à me dire go, on y va.
Mais alors attends, juste, on va s'arrêter deux secondes. Entre le moment où tu commences à faire cette première robe pour ta cousine Mathilde et le moment où vous avez cette discussion, déjà, il se passe combien de temps? Tu matures le truc.
Quelques mois seulement. Parce que je crois que un an après avoir fait la robe de Mathilde, je quittais Bache.
Ah ouais.
Ouais.
Hyper rapide.
Ça a été assez rapide.
Et lui, il ne connaît rien à la robe de mariée, mais te fait 100% confiance et vous avez envie d'entreprendre. En plus, je vais t'en parler après sur évidemment le travail en couple, mais tout de suite, comme ça, vous vous mettez à discuter du projet ensemble.
Ouais, alors on en discute, mais c'est mon projet dans le sens où je serai seule à mener la barque. À ce moment-là, il n'est pas question qu'on bosse ensemble. Il est question que lui gère le projet, mais il a son boulot à côté. Il n'est pas question que, voilà, qu'on commence à bosser vraiment tous les deux. En revanche, on sent qu'on peut faire bonne équipe parce que, voilà, on a des domaines clairement définis et différents. Et lui croit en mon projet parce qu'il voit que parce qu'en fait, que je crois que quand j'ai quitté Bâche, j'avais déjà plusieurs commandes en cours. Donc, en fait, suite au mariage, j'ai eu des commandes que j'ai décidé d'honorer. Donc, je me retrouve avec pas mal de robes en cours, pas mal de demandes. Donc, on sent qu'il y a quelque chose, que le poisson mord, qu'il y a quelque chose à faire. Et lui, je pense, a une fibre peut-être sans doute plus entrepreneuriale que la mienne. Parce que moi, j'ai jamais pensé à me lancer à mon compte. Et lui rend le truc un peu concret. Il sent qu'il y a quelque chose à faire. Donc voilà, il me dit « on y va ». Et donc, il y connaît rien, mais on planche sur les coûts des tissus, on planche sur pas mal de choses.
Mais c'est quand même assez formidable, en plus, que tu aies finalement pris le pari de quitter Bâche, parce qu'au final, tu avais quand même ce job. Bon, là, tu avais tes premières commandes, ça se passait très bien, d'après ce que je comprends. Et je pense que c'est d'ailleurs un bon conseil qu'on peut donner aux personnes aussi quand ils se lancent au début, avant de se lancer de but en blanc, de tout
bien
perdre,
sûr,
etc. C'est vrai que finalement, tu as eu quand même cette petite période juste pour tester.
Oui, et même si elle a été courte, ça permet de prendre la température, de partir en ayant confiance en soi et de se dire, ouais, il y a quelque chose. Alors après... Je vais pas mentir, j'avais pas une foi monstre en mon projet, dans le sens où je me disais, mais ça peut être le plus gros flop de l'histoire de la robe de mariée. J'y croyais pas à mort, ça c'est évident. Mais je sentais que si je le faisais pas maintenant, j'allais regretter. J'avais pas d'enfant, je venais de m'installer avec Edouard, donc on était dans un appart qui avait une taille correcte pour recevoir des clientes. J'avais quitté mon petit appart du 11e. Donc là, je me disais, bah voilà, là, je peux recevoir les clientes. On est deux, donc on est plus fort. Donc si vraiment je me viande, il est là et pour m'aider moralement et financièrement, parce que voilà, c'est sûr que c'est le grand saut de se lancer à son compte. Mais j'avais un peu la folie de la jeunesse. C'est sûr que est-ce que je le referais aujourd'hui avec deux enfants, un appart sur les bras, voilà. Là. On perdait pas lourd.
Bien sûr.
Voilà.
Mais bon, à l'inverse, t'as réussi quand même à sortir de ta zone de confort parce que d'après ce que je comprends, t'étais pas forcément très sûre de toi. Et c'est vrai que je peux comprendre que en tant que non-businesswoman aguerrie au début, bon, bah, il y a forcément ce risque.
Ouais, il y avait ce risque, mais voilà, je m'étais dit que Bâche, c'était le bon moment pour le quitter. Je commençais à avoir des envies d'ailleurs. Et puis voilà, j'étais poussée par Edouard. Enfin, je me disais, ouais, allez, allons-y.
Alors justement, donc tu te mets à travailler seule au début. Vous, à quel moment est-ce que dans la discussion vous vous dites en fait la collaboration se passe bien et elle se passe tellement bien qu'on va s'associer. Et puis ensuite, évidemment, je vais te demander comment vous vous êtes associés au sens où est-ce qu'il y a eu une discussion où vous êtes répartis les rôles. Enfin, c'est quand même tellement compliqué comme situation que voilà, il faut
bien
pas.
Sûr.
En tout cas, le conseil, je pense qu'on peut donner et je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, c'est qu'il faut effectivement en discuter. Il faut pas laisser les choses tourner tout seul sans.
Non. Faut bien faire les choses. Alors dès le début, quand on a créé la marque, donc au moment où je m'apprêtais à quitter Bâche. On était tout de suite associés. Donc on a fait un contrat.
D'accord.
On n'avait pas l'optique de bosser ensemble à ce moment-là. On n'a jamais imaginé que ça puisse nécessiter la présence d'Edouard à plein temps, voire le faire quitter son boulot alors qu'il avait un bon boulot. Donc on l'a jamais évoqué tout de suite. L'idée, c'était qu'on s'associe. Donc lui était vraiment la tête pensante parce
D'accord.
que vraiment... Moi, un tableau Excel, je transpire à grosses gouttes et je tachycarde. Donc c'était vraiment son truc. Moi, en revanche, je faisais les dessins. Mais ce qui a été pas mal, c'est que quand j'ai quitté Bâche, lui quittait son boulot le même jour pour commencer un autre boulot dans le conseil. Mais on a eu un peu ce grand saut tous les deux où le même jour, on lâchait notre boulot et à 20h, on avait un avion pour l'Inde où on s'était dit on file en Inde tous les deux et on va aller voir de plus près les soies indiennes, les tissus, le savoir-faire. Donc en fait, ça a été un peu notre petit baptême tous les deux, on s'est jeté à l'eau. On a voyagé, c'était génial et c'était la bonne transition pour pas quitter un boulot et se retrouver le jour, en tout cas pour ma part, du jour au lendemain chez moi en disant « pom pom, comment
seule,
je
qu'est-ce
prends,
que je fais, quoi.
Qu'est-ce que je fais ?» Donc là, on est partis tous les deux, on était hyper, hyper stimulés par ce voyage parce que forcément l'Inde, en termes de richesse culturelle, on avait fait Bombay, on avait fait New Delhi et on finissait par quelques jours à Goa.
D'accord.
Vacances.
Très sympa.
Voilà. Donc c'était un bon apéritif pour cette nouvelle vie. Et en fait, au retour, moi, j'avais pas mal de clientes, pas mal de commandes à honorer. Donc, j'ai commencé à recevoir, à bidouiller cette nouvelle vie où j'avais des rendez-vous. Donc, moi, j'avais fait un book. Donc, en fait, je recevais les clientes. On se redonnait rendez-vous dans un café. Donc, je leur présentais un classeur dans lequel j'avais une trentaine de croquis. D'accord. Voilà. Et c'était une discussion où la future mariée me disait, bon, bah, ça, j'adore. Mais en revanche, ce dos, bah, j'ai pas envie de montrer mon dos à ce point. J'imagine plutôt ça. Donc, c'était des discussions. Et ensuite, j'élaborais le croquis final et je bossais main dans la main avec une modéliste, ouais. Une couturière qui allait réaliser ma robe. Et je recevais les clientes chez moi, dans notre appartement. Donc évidemment, toutes les clientes bossent, donc ouais. Les rendez-vous étaient le soir. Donc le brave Edouard rentrant chez lui après une journée ardoise de boulot, voilà, trouvait le salon fermé et il devait se contenter de la chambre, squatter une heure avant de pouvoir accéder à son salon. Donc c'était ouais. Un peu la phase, c'est le début. Mais voilà, ça a été un an comme ça avant de se dire, bon bah voilà, là ça roule suffisamment pour qu'on se prenne un local. Et donc on s'est pris un local. Donc, moi,
que
j'étais...
du bouche à oreille hein, à ce moment-là.
Ouais, que du bouche à oreille. Que du bouche à oreille, mais des mariés qui ont fait confiance, des jolis mariés portant bien la robe. Et puis ça va très vite, en
ouais,
fait,
bien sûr, un mariage. Parce que tout le monde les voit, tout le monde demande.
Exactement. Et ensuite, on a enchaîné les déménagements. On a cessé de s'agrandir parce qu'on avait un premier petit local. On a commencé à embaucher. C'est là que Mathilde est arrivée, donc ma cousine, ouais, pour qui j'avais fait la robe, très vite a rejoint l'aventure. Donc, je bossais avec Mathilde et très vite, on a commencé à embaucher nos premières modélistes, les premières couturières.
Alors, j'ai compris que donc, au début, ça s'est fait un peu au fil de l'eau, de manière très entrepreneuriale, comme on peut en rêver dans ton appart et tout. Edouard était donc employé à ce moment-là et donc décide à un moment de quitter sa boîte pour te rejoindre à 100%.
Ouais, alors ça se fait pas tout de suite du tout, puisque ça se fait au bout de 4 ans.
D'accord.
Donc pendant 4 ans, je...
Il t'aide on the side.
Voilà. Alors pour lui, c'est pas évident parce qu'il est plein de questions le soir quand il rentre. Il a beau avoir la tête farcie par son propre boulot, le soir il a plein de questions sur la boîte parce que on a eu la chance d'avoir un développement hyper rapide et sans coup dur. Donc en fait pour Edouard, c'est son petit bébé qui le fait rêver. Le soir il me pose des questions, on me dit quoi encore plein de toutes ces commandes, quoi
t'as rencontré
quoi bah là on peut plus répondre, faut vite embaucher une modéliste. Donc lui il est en demande de plein de choses. Et moi, je suis quand même fatiguée parce que je suis un couteau suisse, forcément.
Ouais, tu bosses tout le temps, t'es
boîte, voilà. Je fais plein de choses qui sont pas dans mes compétences. Enfin, c'est le propre d'une boîte. Donc, c'est vrai qu'au début, il y a quelque chose de fatigant parce que on n'a pas conscience de ses limites. On n'a pas conscience forcément de ce dans quoi on est bon, ce dans quoi on n'est pas bon. Donc, il nous demande une énergie folle.
Bien sûr.
Et donc, j'avoue, c'est un peu pénible le soir. Il a envie de me poser plein de questions. Et ce qui est normal, évidemment, parce qu'il a besoin de gérer la boîte, il a besoin de manager le truc. Et moi, je suis là, ouais, bah ouais, mais je suis là, tu veux pas qu'on...
Je suis fatiguée, quoi.
Je suis fatiguée, qu'on se fasse un film ou autre. Et donc, on a quelques années comme ça, mais ça se passe très, très bien, parce que forcément, on a que des bons problèmes, donc lui... Mais pour lui, c'est fatigant aussi, parce qu'il y a des moments où c'est moi qui lui saute dessus en disant, non, mais j'ai vu deux modélistes géniales, il faut absolument les embaucher, il faut qu'elles commencent la semaine prochaine, on n'arrive pas à répondre aux commandes, là. Et lui, bah voilà, ça demande du temps de se remettre dans le business plan, tout actualiser, voir où on en est, voir si vraiment on peut... embaucher deux personnes supplémentaires.
Toi, justement, ça, c'est une question qui m'intéresse, cette répartition entre ton rôle créatif et le rôle business. Au début, quand même, tu faisais un peu tout, même si Edouard t'aidait. Ouais. Comment est-ce que tu as réussi à connaître, comme tu dis, tes limites, savoir que, et tu le dis très bien, et de toute façon hyper humble, et je trouve ça vraiment génial de dire, moi, en fait, les chiffres, c'est pas ce qui m'intéresse, je veux me concentrer sur là où j'excelle, c'est-à-dire la création, la vision, etc. Est-ce que tu as eu un moment un peu déclic où tu t'es dit, non, mais il faut justement que je me concentre sur mes forces, plutôt que, comme beaucoup d'entrepreneurs qui font cette erreur, tu vois, essayer de tout faire mal?
Le constat, il a été assez simple. C'était peu de temps avant qu'Edouard nous rejoigne. Moi, j'étais en bout de piste et je comprenais pas parce que tout cartonnait.
Mais crevé.
Et puis, pas la foi. Enfin, vraiment, fatigué, pas...
C'était en quelle année, ça?
C'était peut-être 2014, 2015, où vraiment, je me disais, mais je vais pas lâcher le bateau. Parce que tout marche bien, donc c'est absurde de vouloir... Mais... Et en fait, j'en ai vachement parlé avec une copine qui faisait du recrutement et qui m'a un peu fait répondre à quelques questions dans de ses logiciels. Un logiciel pour vraiment savoir ce dans quoi on est bon, ce pour quoi on est fait, est-ce qu'on est à la bonne place. Et là, sonnette d'alarme, parce qu'elle m'a dit « Non, mais là, t'es proche burn-out, t'es en bout de piste. » Mais en fait, juste parce que tu fais des choses dans lesquelles tu n'es pas bonne... Enfin, des choses qui ne sont pas innées chez toi. Bien sûr. Donc moi, je voulais quand même bien les faire, donc, mais ça me demandait une énergie folle.
Bah, c'est ça.
C'est-à-dire que moi, je suis assez solitaire, j'aime bien être tranquille dans mon bureau, à faire mes dessins, mes trucs. Et là, je me retrouvais en fait à jouer les commerciales, à recevoir 10 clients par jour. Bah, il s'avère que stop. C'est, enfin, voilà, très vite. Alors, on avait commencé à recruter entre temps, évidemment, hein, mais donc c'était peut-être un peu avant 2015 quand même. Mais très vite, je me suis dit, bon, voilà, c'est pas dans mon tempérament d'être avec un sourire bright au coin des lèvres toute la journée à faire des frais, à faire enfiler les robes aux filles. Alors que vraiment, mon tempérament, c'est plutôt d'être solo dans mon bureau, avoir le temps de cogiter à mes modèles, d'envisager la suite. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont ressorties de ce document. Et puis voilà, Edouard, il voyait que je perdais la foi, alors que tous les chiffres étaient au beau fixe, que tout nous souriait. Donc il y avait un côté vraiment un peu absurde et il fallait changer les choses. Et en fait, tout a commencé, le gros déclic aussi, ça a été quand Edouard est arrivé. Donc il est arrivé en 2014. Et là, évidemment, ça a changé tout, parce que toute la partie RH, qui était quelque chose qui me coûtait, moi, de m'occuper...
Qui te bouffait, quoi.
Ouais, voilà. Je suis pas faite pour faire des points annuels, pour discuter salaire, pour... Moi, j'ai un côté... J'adore les filles avec qui je travaille, mais j'ai besoin de me détacher de cette partie « boss », entre guillemets, où je vais leur faire... Enfin, voilà, c'est...
T'es plus effectivement créative et
oui,
dans la
et trop dans l'affect en D'accord. fait, trop dans l'affect pour pouvoir faire des points annuels, discuter salaire, discuter. Donc évidemment, je suis très présente, mais il y a une répartition des rôles qui s'est faite avec Edouard. Déjà, j'ai été rassurée quand il était là à plein temps, parce qu'en fait, quand la boîte, quand on est à 15 personnes et que Edouard prend ses discussions le soir entre prend ses décisions pardon le soir entre 22h et minuit sur la suite, c'est vrai que là, on se rendait tous les deux compte qu'il y avait un couac. Et voilà, et puis il a pu reprendre, parce que même si il gérait avec la compta, il y avait des petites choses du quotidien, c'était moi, inévitablement. Même si il faisait beaucoup, rien ne vaut quelqu'un qui est là à plein temps. Et puis c'est rassurant, à l'atelier, c'est con, mais on était entrés dans un gros local, donc il y a des fuites d'eau, il y a toujours des trucs, et sans homme pour gérer la baraque, bah c'est un peu ardos, quoi.
Non, mais ce que je trouve génial dans ce que tu dis, c'est que, en gros, et je pense que ça, c'est un des points peut-être importants à retenir, c'est que tu as aussi eu l'humilité de voir, en gros, qu'il fallait que tu te concentres sur tes forces et d'accepter de déléguer, parce que souvent, c'est ta marque, c'est ton nom sur le frontispice, donc c'est pas facile non plus, tu vois, enfin, je peux me mettre à ta place, je peux imaginer que c'est pas simple, mais c'est le mieux pour l'entreprise et pour toi.
Oui, mais par chance, j'avais vraiment créé la boîte avec Edouard, donc certes, elle portait mon nom, mais c'était notre truc à tous les deux, et là, c'était vraiment important que lui vienne nous en support. Alors évidemment, il y avait Mathilde, pour le coup, j'étais pas du tout toute seule, donc Mathilde gérait plein de choses, et elle avait aussi des compétences qui étaient pas du tout les miennes, donc elle gérait la production, elle gérait les rapports avec les fournisseurs, donc voilà, il y avait déjà eu un premier step avant l'arrivée d'Edouard, mais le fait qu'il arrive vraiment permettait de créer un trio qui était donc le Mathilde, Edouard et moi, et c'était on avait chacun notre domaine, chacun nos forces, et là ça permettait de créer vraiment une trinité,
le triumvirat indéboulonnable, quoi.
Exactement. et qui allait nous permettre de nous, alors certes, une boîte, ça, on est toujours obligé de changer, de sortir de sa petite zone de confort et de ce dont on est bon, mais au moins on le faisait à trois et on avait un bon mode de fonctionnement.
Et justement, si on peut parler du mode de fonctionnement, parce que comme vous avez des compétences qui sont quand même super différentes et complémentaires, et c'est ça, je pense, qui fait que ça fonctionne aussi bien, vous êtes répartis les rôles de manière assez simple et directe dès le début. Enfin, vous avez eu une discussion à ce sujet-là, même les décisions, tu vois. Est-ce que chacun, en gros, dans certaines boîtes, chacun a son prégardé, entre guillemets, et responsable, et les autres s'en occupent pas. Il y a des boîtes, par exemple, c'était le cas chez nous, chez Gemio, où en gros, vraiment, c'est plus collégial. Comment est-ce que vous êtes organisé?
Alors, il y a sans doute eu des discussions au moment où Edouard est arrivé. J'en ai pas souvenir. Je suppose qu'il y a eu des discussions pour vraiment que chacun se dispatche bien les tâches. Alors moi, j'étais toujours un peu en dehors de ces... Enfin, j'en faisais partie, mais mon rôle, il était tellement défini sur la communication de la boîte et le style.
La création.
Voilà, c'était plus Edouard et Mathilde qui ont sans doute dû discuter. C'est même certain qu'il y a dû y avoir des discussions. Mais les choses se sont faites naturellement, chacun par rapport à son expérience, ses appétences et ses envies, parce que l'idée d'avoir sa boîte, c'est aussi de faire ce qu'on aime.
Bien sûr.
Alors,
pas l'oublier.
Évidemment, une boîte, c'est pas du tout 100% ce qu'on aime. Mais voilà, donc on a eu ces discussions-là et puis ça s'est fait de manière assez fluide. Il y a dû sans doute y avoir des ajustements parce que Mathilde et Edouard avaient peut-être plus de domaines qui se croisaient.
Oui.
Et puis Mathilde ayant été là quasiment pendant 3-4 ans avant.
Ouais, bien sûr.
Peut-être qu'elle avait pris des choses. Il y a dû y avoir des petits ajustements, mais ça s'est fait de manière relativement fluide et chacun y trouvait son compte.
Et si on parle du travail en couple à proprement parler, t'aurais des conseils à donner un peu basiquement aux auditeurs qui nous écoutent? Je te pose la question parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question à moi, puisque j'ai aussi créé une boîte avec mon mari. C'est pas évident en fait comme question, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Je crois savoir que toi t'as une vision assez claire quand même sur ce sujet. Ou en tout cas, voilà, est-ce que t'aurais des conseils ou des choses, peut-être des erreurs que vous auriez fait? Enfin, juste voilà, des éléments à donner de réponse.
Ce qui est certain, c'est que j'ai l'impression que moi, je vois autour de moi en effet des gens qui ont envie de se lancer. À chaque fois, c'est mais j'ai trop peur ou alors ça le fera jamais. Nous, on était effrayés à l'idée de bosser ensemble parce que ça a jamais été au programme. C'est arrivé très vite. On n'a pas eu le temps de trop se poser la question. D'un coup, la boîte a vraiment grossi. On s'est dit bon, on arrive à 15-20 personnes. Est-ce qu'on a envie de prendre un sombre inconnu qui jouera le rôle de DAF, qui va tout mettre son nez dans tout gérer, alors que Edouard, il connaît la boîte par cœur.
Ouais. Que vous faites 100% confiance.
Voilà, il l'a dans le ventre et il a très envie de la gérer de plus près. Et donc, ça n'a pas été évident, parce qu'en plus, c'est arrivé au moment où on se mariait, on achetait un appart, et le mois d'après, on démarrait
ensemble.
C'est bien,
ensemble. Tu mets tous les œufs dans le même panier.
Voilà,
parfait.
Donc, histoire de mettre tous les œufs dans le même panier et de se dire, non mais on va divorcer dans... Voilà, tout va voler en éclats dans un mois. Ça ne peut pas marcher à ce point. Et en effet, le premier mois était un peu compliqué, c'était un peu le choc des cultures, parce qu'avec Mathilde est comme moi assez littéraire et affecte, donc on gérait la boîte, c'était le royaume des petites culottes, quoi. On bossait que entre filles, ça fonctionnait à l'affect, on avait des big quatre couleurs et un
D'accord.
agenda papier.
Très bien.
Et d'un coup, Edouard est arrivé et on avait des réunions qui s'affichaient sur nos ordis.
Avec de l'Excel,
voilà,
des Google Docs.
Voilà, de l'Excel. moi, je me disais, mais enfin, il est relou. Pourquoi il nous fait une réunion sur ordi alors qu'il est en face de moi, dans le bureau en face de moi et qu'on peut se parler? Donc voilà, donc j'étais hyper pénible puisque je répondais peut-être à chaque réunion tellement le concept de la réunion sur informatique m'irritait. Et donc voilà, il y a eu un mois d'ajustement où Edouard, lui, il venait du conseil.
Ouais.
Donc c'était un
hyper
domaine
carré,
vachement plus carré, entre hommes, beaucoup plus rationnel, alors que nous, tout fonctionnait à l'affect. Ah. Et donc voilà, donc il y a eu un mois un peu d'ajustement drôle, où moi je me suis dit, bon bah en fait ça va jamais marcher, c'est
ah
évident.
Ah ouais, tu t'es dit ça quand même un
moment. Oui, mais très, enfin, peu de temps, très peu de temps, mais je gloussais de cette situation où je me disais, mais... Ça, donc là, d'un coup, il veut qu'on ait plus d'agenda, il trouve ça compliqué, les agendas papier. Enfin, moi, j'adorais, on écrivait hyper bien dans nos agendas et on adorait nos agendas papier. Enfin, voilà, on avait un côté complètement old school qui me plaisait, moi, parce que j'ai toujours aimé les agendas papier. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Et d'un coup, tout devenait, enfin, il instaurait des process, plein de choses. Donc, c'est vrai que ça a été étonnant. Très vite, on a trouvé notre équilibre à partir du moment où on a compris que bosser en couple, ça pouvait être génial. Si on savait placer ses limites, c'est-à-dire rentrer le soir et pas parler boulot, si on évitait d'aller bosser main dans la main le matin, donc s'attendre à l'appart, ce qui peut être source de tension quand l'un des deux est en retard.
Bien sûr.
Donc voilà, et en fait, à partir du moment où le soir on avait d'autres sujets, et puis ça tombe bien, on avait mille autres sujets entre les week-ends, les vacances, on n'avait pas d'enfants à l'époque, mais... Les ciné, plein de choses, enfin voilà, mille autres sujets plutôt que boulot. Et le matin, on va chacun de notre côté, on a gardé nos déj, moi je gardais mes déj avec mes potes, Edouard gardait ses déj avec ses copains. À partir du moment où on a une forme d'indépendance dans le boulot, on n'est pas dans le même bureau face à face. Alors je sais pas si c'est ton cas, toi, Pauline.
Ouais, c'est le cas aussi.
Voilà. Mais nous, on a fait en sorte voilà, de garder une petite séparation et de mener notre vie. Et donc, on voulait pas être dans le même bureau, donc on n'a pas été dans le même bureau. Et voilà, on a trouvé un équilibre comme ça. Et il s'avère que maintenant, j'adore. Et pour rien au monde, je me retrouverai à bosser toute seule dans la boîte. Je trouve ça hyper... Edouard, il est hyper rassurant parce qu'il a une pleine gestion des chiffres, de plein de choses. Il sait où il va. Là où moi, sont plein de données complètement floues et je peux taquicarder pour un truc absurde. Il va me dire, mais non, mais évidemment qu'on le savait.
Bon, après, j'ai l'impression que vous êtes très complémentaires aussi parce que tu le valorises et tu as bien raison. Et c'est évident que la boîte ne serait pas comme elle est sans lui.
Mais bien sûr que non.
Mais à l'inverse, je peux imaginer que lui, il doit se dire la même chose de toi et c'est ça qui est assez formidable. Quoi,
oui, non,
dans
mais
ton domaine.
c'est vrai qu'on voilà, on a des domaines tellement différents que...
Tu penses quand même qu'à son contact, t'as changé au niveau professionnel, je veux dire, typiquement, tu vois, sur la structuration, où finalement, tu lui, entre guillemets, délègues vraiment toute la partie chiffres, structuration, etc. Et en fait, tu te concentres vraiment sur tes forces.
Bah, j'ai vachement délégué parce que quand il est arrivé, j'étais à un stade où j'étais un peu à bout d'avoir toute la partie gestion pure de la boîte. C'est con, hein, mais on a un atelier où il y a à peu près 120 lampes.
Donc, 120 lampes.
Donc ça paraît absurde, mais c'est autant d'ampoules à commander tous les mois. Autant d'ampoules, elles sont très en hauteur, donc il faut une échelle pour monter. Et c'est des trucs tout bêtes comme ça, mais j'avais la commande Carrefour qu'on passait tous les mois avec le café, les coca pour les filles, le fond de tiroir, entre guillemets. Les fonds de placard, pardon.
Vie, ma vie d'entrepreneur.
Oui. Et donc je touchais à 1000 trucs complètement crétins. Et donc du coup, j'étais complètement dispersée. Et donc Edouard, quand il est arrivé, toutes les parties qui me faisaient saturer, j'allais pas lui filer toutes ces parties un peu plus ingrates, mais toute la partie RH, toute la partie donc tous les recrutements à venir, toute la partie gestion avec le comptable, plein de choses. Edouard il a repris plein de choses, donc il s'est retrouvé à avoir beaucoup de choses et moi j'ai pu être un petit peu plus légère et me recentrer un petit peu.
Bien sûr.
Donc ça a fait du bien. Donc je pense que j'ai changé à son contact, pas vraiment au moment où il est arrivé, mais plus avec mes congés mat, parce que j'ai eu deux congés mat assez rapprochés, comme j'ai eu deux enfants assez proches. Et c'est plus à ce moment-là que j'ai changé, c'est que j'ai pu quitter la boîte en étant totalement détachée, ce que je n'aurais jamais imaginé, déjà s'il n'avait pas été là.
Ouais.
Et dans une autre boîte, j'avais quand même un côté un peu stressé dans le boulot. Et là, ça a été un vrai luxe de pouvoir quitter mon boulot.
T'as pu faire une vraie coupure.
Ah ouais. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix quand on est entrepreneur, je le vois.
Bah, j'avoue que ça m'étonne en fait que tu me dises que tu as pu le faire, parce que quand tu crées ta boîte, tu dirais que c'est impossible.
Ça
mais là, tu as
pas.
Réussi à faire un vrai break, quoi.
Ouais, je sentais que j'en avais besoin, déjà parce que c'était un vrai chamboulement pour moi, la maternité. Et j'ai été sur un tel nuage de bonheur que c'était incompatible avec des irruptions dans ma journée de mails, de boulot ou autre. Enfin, j'avais vraiment besoin de c'était hors du temps, c'était une bulle hors du temps et le boulot ne devait pas venir me toucher. Et ça a été plus jouable parce que Edouard était là à plein temps. Et donc, c'était lui qui était le pare-choc. Donc, tous les trucs, il les prenait. Et quand vraiment il y avait une urgence, il me disait, bon, bah, il y a tel magazine, on peut avoir une interview géniale. S'il te plaît, ce serait vraiment bien. Et donc là, évidemment, mais du coup, rien ne m'atteignait. Ouais. Il bloquait tout. Enfin, il gérait tout.
Il m'a pas écran bloqué, complètement.
Il gérait tout et donc j'avais besoin de me pencher que sur les urgences. Mmh. Et donc ça, c'était un vrai luxe parce que je me serais pas imaginé pouvoir faire une telle parenthèse. Et ça n'a pas de prix parce que vraiment dans un moment... chaque femme le vit différemment, mais moi, j'avais vraiment besoin de...
Bien sûr. Puis je pense que dans la vie d'un entrepreneur, tu as toujours quand même besoin à un moment donné de pas faire forcément une coupure, mais il y a quand même des phases d'expansion, il y a des phases où tu es un peu plus fatigué. Ouais. Et je pense qu'il faut réussir à prendre ce temps, mais pas toujours facile quand t'as pas un associé.
Ouais. Mais cette coupure, en fait, elle est nécessaire, parce qu'on voit clair sur plein de choses dans la boîte. En fait, on est tellement immergé. Moi, là, la boîte, ça fait 8 ans. Je suis contente d'avoir eu ces deux congés mat l'année dernière et celle d'encore avant pour prendre du recul parce qu'il y a plein de choses qui nous sautent aux yeux dont on n'a pas conscience et c'est sain en fait, c'est quelques mois où on s'échappe, c'est 3 mois où on s'échappe, c'est sain parce qu'on revient, il y a des choses un peu absurdes dont on n'a pas de recul ou des axes d'amélioration qui nous sautent aux yeux au retour.
Bon, on a quand même pas beaucoup parlé encore de l'entreprise, donc j'aimerais en parler un peu plus. je sais, donc beaucoup de bouche à oreille, enfin franchement... très très gros succès de la notoriété et puis de la marque. Est-ce qu'il y a quand même eu un moment dont tu te rappelles où toi-même t'as presque été étonnée, tu vois, où tu sentais qu'il se passait quelque chose? Quel a été un peu le moment où tu t'es dit, bah en fait c'est vraiment une marque, c'est plus juste moi dans mon salon, tu vois, avec mon mari de temps en temps qui m'aide, etc. Qu'est-ce qui a fait selon toi à la fois décoller la marque et puis est-ce qu'il y a un moment dont tu te rappelles dont tu pourrais nous parler?
Bah je sais que très vite, on est un peu tombé de notre chaise parce que donc on venait de lancer la marque. Enfin, c'était vraiment encore évidemment minuscule puisque le site avait 3-4 mois. Et on voit un pic de visibilité sur le site internet énorme du côté des États-Unis. Et donc absurde parce qu'on était vraiment la petite marque franco-française et connue de vaguement sans parisienne, hein, pas plus. Ouais. J'exagère, mais voilà. Et en fait, énorme pic aux États-Unis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un blog qui nous a repéré américain, A Cup of Joe. Et qui nous avait fait un article dithyrambique. Et donc la marque avait même pas 6 mois qu'on avait des mails d'américaines qui venaient. Et ça, j'avoue, c'était un peu absurde parce que je me retrouvais à recevoir des Américaines dans mon salon,
dans ton salon,
voire dans le premier atelier qu'on a eu au bout d'une petite année. Et très vite, j'avais des Américaines qui venaient pour notre robe, qui revenaient plusieurs fois parce qu'on faisait du vrai sur mesure, donc ça impliquait plusieurs. Et là, je me suis dit, mais on les reçoit dans un micro. Elle devait même être.
C'est la honte, quoi.
Voilà, elle devait être totalement surprise d'arriver dans un atelier de 25
elle
mètres carrés.
C'est tellement français.
So French. Voilà, elle trouvait ça fabuleux. Nous, on était gênés parce que on n'avait pas encore. Le site internet était beau, mais notre local ne suivait pas parce que tout était allé très vite. Et donc j'ai eu plusieurs étapes comme ça là j'ai encore la chance, c'est le cas, mais quand j'entends le téléphone qui sonne non-stop à l'atelier, quand les filles nous disent, quand on sort une collection, en général après les filles se plaignent en disant non mais là c'est plus possible, enfin, on n'a pas de standardiste à l'atelier, et les filles disent non mais là alors c'est pas possible, quoi. on peut pas écrire un mail, on est dérangé toutes les deux secondes, quoi. C'est des petits soucis du quotidien, mais à chaque fois, je me dis, bah, c'est dingue, quoi. Notre téléphone sonne toutes les 3 minutes. Les filles raccrochent, elles ont 1 minute, 2, et ça ressonne. Et ça, c'est vrai qu'on n'est pas. Je suis loin d'être blasée. Chaque année, c'est une surprise. Chaque année, je me dis, bon, bah, le vent va peut-être tourner. On va peut-être être complètement ringard l'année prochaine. Et voilà, je m'émerveille toujours autant de voir qu'on a une liste d'attente chaque année, parce qu'on ne peut pas absorber toutes les commandes. Nous, on fait tout dans notre atelier parisien. Donc il y a un moment où on peut plus. Enfin voilà, on a beau recruter, à un moment on peut pas pousser les murs. Et donc de me rendre compte que chaque année on a une liste d'attente, que le téléphone sonne, ça je suis pas blasée. Enfin, chaque année je m'émerveille de prendre conscience de tout ça.
Je comprends. Justement, ce choix de l'atelier parisien, je trouvais que c'était hyper intéressant. On en parlait un petit peu en off juste avant de commencer l'interview et tu me disais que c'était génial parce que tu voyais vraiment au quotidien les filles travailler et que tu pouvais vraiment être super impliquée. Ça a été évident pour vous justement de garder la production vous-même parce que tu vois, on aurait pu se dire que toi, t'es styliste, créatrice, tu fais faire à façon, ce qui se fait quand même beaucoup
bien
aussi.
Bien sûr.
Est-ce que tu peux me parler un peu de cette décision? Parce que je pense qu'il y a aussi pas mal de créateurs peut-être qui écoutent le podcast qui pourraient se poser la question.
Alors nous, ça a été évident parce qu'on a recruté une première modéliste, une deuxième, et on avait cette envie de faire du Made in France. Et on avait envie de retrouver cette ambiance des ateliers surannés, l'atelier à l'ancienne. C'est quelque chose qui se perdait, et or, moi, j'y croyais vachement. Je pense que on a été tellement abreuvés de Made in China, de qualité dégueulasse. On a vraiment une saturation que, la vie, tout est cyclique. Et j'étais sûre qu'on allait revenir dans quelque chose de plus traditionnel. Et en plus, pour le confort d'avoir tout sur place, de pas perdre du temps. J'avais bossé. Donc avant, on faisait à façon en Inde, en Chine. C'est de la perte de temps d'envoyer tout ça, de donner ses explications. Quand on a tout sur place, c'est un vrai luxe.
Ouais.
On fait 10 mètres et on va voir la modéliste en lui disant « Ah mais attends, mais enfin c'est un gain de temps considérable. » Alors c'est sûr que c'est plus cher le Made in France. Ouais. C'est sûr que c'est un coût. Mais c'est un vrai conseil. Enfin, c'est un vrai. On a un vrai savoir-faire. On a une vraie valeur ajoutée à faire ça. Et puis nous, c'est un vrai luxe. Alors après, on a travaillé avec un atelier à façon qui est en France, pour la simple et bonne raison que on pouvait pas absorber 100% dans le pic de la saison. Il y a un moment où on n'arrivait plus. Et donc on avait un atelier qui nous faisait quelques modèles. Donc on avait mis au point chez eux, 5-6 modèles. Et quand vraiment on n'arrivait plus à absorber, à tout faire sur place. Prenaient le relais.
D'accord.
Mais c'était du Made in France et les robes étaient réalisées avec nos grades de qualité. Ils travaillaient super bien. Donc,
bien sûr.
Mais là, on a décidé de tout récupérer à 100%. On a pu s'agrandir, l'atelier s'agrandit. Et voilà. Et puis moi, j'y crois vachement. Je trouve que c'est une force et je le vois dans nos yeux, dans les yeux de nos clientes quand elles montent. Pendant longtemps, on n'a pas communiqué dessus parce que ça nous semblait normal de tout faire sur place. Mais en fait,
c'est assez unique. Hein,
on est 40, pense. Donc on s'en est pas rendu compte. Mais un jour, on a ouvert les yeux en se disant on est 40, tout est fait sur
place. Je pense
que
pour les clientes aussi, voir l'univers, enfin, il y a tout un lifestyle autour.
Elles adorent. Et puis tous les points de vente, on bosse avec une trentaine de points de vente. Là, on les reçoit en ce moment pour présenter la nouvelle collection. On voit quand ils montent cet escalier, on a un bel escalier, on arrive et on a toute la partie atelier à l'étage, on a un plateau de plus de 200 mètres carrés. Bon, c'est quelque chose qui se perd sous des verrières, voire que des nanas en train de travailler du blanc, toutes ces robes, enfin, c'est magnifique, c'est complètement d'un autre temps et ça fait rêver. Et je pense vraiment que cette magie apporte à la marque.
Bien
et,
sûr, c'est sûr.
Voilà, on peut faire des merveilles avec des ateliers ailleurs, mais je pense que quand tout est en intégré, il y a une fluidité dans les informations, dans le gain de temps, dans plein de choses. je suis vraiment derrière chaque modèle et ça, c'est précieux.
C'est sûr. Au niveau de tes inspirations, justement, vous faites quand même une nouvelle collection par an, avec pas mal de modèles à chaque fois. Est-ce que tu peux m'expliquer quel est un peu ton processus créatif ? Comment est-ce que tu fais quand tu as la page blanche pour te dire « Ok, cette année, je crée une nouvelle collection ». Est-ce que c'est hyper structuré ? Est-ce que tout au long de l'année, tu chines un peu à droite à gauche ? Voilà, explique-moi un petit peu comment est-ce qu'on fait pour inventer une collection de robes de mariée lors de Sagazan.
Alors, à chaque fois, on a l'impression qu'on fait n'importe quoi.
Et à la fin, ça sera pistole. Ouais.
Moi, je suis carrée comme une bulle de savon, donc j'ai aucune, j'ai aucune logique, j'ai rien du tout. Je suis complètement, enfin, tout part un peu dans tous les sens. Mais j'ai quand même sans doute un sens qui a un esprit. Enfin, en tout cas, ça. Au final, j'ai beau avoir l'impression de partir dans tous les sens, il y a toujours une cohérence et d'une collection à l'autre, il n'y a pas de grand écart. Il n'y a pas de grand écart, il y a des évolutions, mais j'ai sans doute, je sais ce que j'aime et je sais ce qui me parle. Donc en fait, chaque année, je stresse parce que je me dis, mais là, j'ai l'impression que j'ai rien de logique en tête, j'ai rien vraiment défini. Donc à chaque fois, c'est selon les inspirations, ça va être au ciné, voir un film un peu d'époque avec des jolis costumes, ça va être théâtre, ça va être en lisant, je m'imagine les costumes, ça va être les Parisiennes dans la rue, là, avec l'été qui arrive, des robes qui sont parfois des robes sans doute cheap, prêtes à porter. Parfois, il y a un détail ou une allure générale qui me parle. Donc, je note tout ça dans un coin de ma tête ou dans des petits carnets. Et aussi, j'enregistre pas mal de photos sur Internet tout au long de l'année. Donc en fait, là, j'ai déjà mon dossier 2021 et quand je vois un joli détail, un joli truc, je l'enregistre. Donc en fait, quand je me mets à bosser sur la collection, en général, c'est fin septembre, début octobre, j'ai une petite banque de données, donc j'ai des croquis dans mes carnets et j'ai des photos.
Puis après, tu fais un espèce d'immense travail de restructuration conceptuelle, genre de hockey.
Très carré, voilà, des tableaux. Non, vraiment, je rassemble tout ça. Et après, c'est surtout ce qui me donne, ce qui me permet de vraiment me lancer, c'est le concret, c'est le salon Première Vision. Il y a un salon qui a lieu début septembre. Ouais. Et donc là, je suis sur tous les stands, j'écume les stands de tissus, de dentelles. Et là, je reçois des échantillons. Ouais. En général, c'est vraiment l'impulsion, voilà. Ce que je fais, c'est que je pars en général une semaine chez une de mes grand-mères. Je m'installe, donc j'ai de la place et j'ai une chambre entière où j'étale tous mes tissus par terre et c'est là où je fais tous mes dessins. J'ai vraiment besoin de... Alors moi, je suis une bordélique finie, donc j'ai besoin... L'appartement parisien ne me suffit plus. Donc j'ai vraiment besoin de m'étendre dans une pièce entière et il y en a partout, on peut pas rentrer. Et j'ai tous mes tissus par terre et c'est là où je fais des petits bidouillages, des associations de telle dentelle avec telle dentelle, ce petit galon qu'on va retrouver sur telle robe et telle robe. Et ça m'aide vraiment d'être... par terre, entouré de mille et un tissus, de croquis, et c'est là que...
Et t'es seule pour ce genre de moment
Ouais.
C'est important pour toi, justement, d'avoir ce temps, parce que j'ai l'impression que c'est assez quand même structuré, d'une certaine manière, c'est tu pars une semaine chez ta grand-mère ou autre, et donc tu prends ce temps créatif, quoi.
Oui, on s'est rendu compte que pour une personne pas carrée comme moi, je suis vite dissipée à l'atelier, c'est pas possible, entre
parce
les clientes,
là, tu t'es coupée tout le temps.
Les mails, voilà, je suis coupée tout le temps, et c'était pas du tout constructif. Or, maintenant, plus ça va, plus on a de modèles, plus il y a d'attentes, donc plus on a besoin de s'organiser. Et donc ça, c'était une idée, je crois, de Mathilde à l'époque, qui m'avait dit, mais pourquoi tu te casses pas une semaine, tu coupes tout et t'as vraiment une semaine pour toi où tu peux laisser libre cours à ton imagination, t'es pas pollué par le quotidien, les mails, et en effet c'est précieux. Bon, là depuis j'ai deux enfants donc c'est quand même compliqué de en général je pars avec eux parce que voilà c'est quand même l'occasion de leur faire prendre l'air puisqu'on va à la campagne. Je suis peut-être moins efficace qu'avant, mais au moins, je réussis quand même à avoir cette semaine hors du boulot qui me permet de pas avoir le quotidien de Paris et de l'atelier.
Il y a des personnes qui t'ont particulièrement inspiré justement dans ta carrière, dans ta vie. Ça peut être des créatives, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, ça peut être des entrepreneurs, peu importe. Mais là, justement, on parlait de processus créatif et je trouve ça toujours hyper intéressant en fait d'essayer de se dire ok, qui sont des personnalités derrière les personnalités inspirantes aussi, tu vois, qui peuvent te donner des ailes. Ça peut être des personnes dans des livres, peu importe.
Ouais. L'histoire de la mode et pas que n'est faite de plein de parcours. Est-ce que j'en ai un en particulier en tête? Je lisais en ce moment un livre, bah justement, on en parlait en off sur Jeanne Toussaint, qui est la panthère de quartier. Et ça recèle de femmes inspirantes, puisqu'il y a Coco Chanel, l'histoire de Jeanne Toussaint. Plein de personnes comme ça qui ont pu créer des choses nouvelles. Moi, je suis assez bluffée, quoi.
Coco Chanel. Surtout à l'époque, quand tu y penses.
Bah voilà, qui décide de libérer la femme. Ça, je suis assez impressionnée. Je suis impressionnée par cette Jeanne Toussaint qui est capable de révolutionner la joaillerie avec Cartier et tout ce qu'elle a créé. Voilà, il y a plein de femmes dont peu importe.
Inspiration dans la littérature.
J'en ai pas d'autres, oui.
J'aime bien terminer l'interview par des petites questions un peu plus perso. Mm-hmm. Notamment, en fait, j'aime bien savoir exactement à quoi ressemble ta journée type. Alors, tu vas me dire, il n'y a pas de journée type, peut-être, mais est-ce que tu peux me décrire en gros à quelle heure tu te lèves le matin? Alors, maintenant, tu as des enfants, donc peut-être partons du principe que, voilà, à partir du moment où tu as des enfants, tu te lèves tôt, mais voilà, que tu me racontes vraiment de A à Z ta journée pour qu'on essaye de se projeter, tu vois, et de visualiser à quoi ça ressemble.
Donc, ma journée, en général, j'émerge vers 8h moins le quart.
D'accord.
Souvent, donc, du coup.
Bon, ça va.
Ouais, c'est correct. Correct. Ouais, très correct. On a de la chance. Avec les pleurs d'un des deux. Et grande importance du petit déjeuner. C'est bien. Ce qui me tire du lit. C'est peut-être ma première pensée. C'est qu'est-ce que j'ai préparé ou qu'est-ce que j'ai ce matin.
Alors, qu'est-ce que tu manges au petit déj?
Ah bah c'est... Alors, faut pas de routine. Donc, plein de nouveautés et golden tour. C'est-à-dire que c'est dimanche matin, tous les matins.
Génial.
Donc, soit j'ai préparé des choses la veille, soit je me suis acheté un trop bon pain, soit...
C'est en tout cas le meilleur repas de la journée, je pense qu'on peut le dire.
Ouais, j'adore. J'adore. Et j'aime de plus en plus cuisiner. Donc, en général, soit je me fais une salade de fruits, soit je me suis préparé un petit chia pudding la veille, soit je me suis fait un bon pain. Donc, en fait, je suis excitée comme une puce le matin d'avoir ma production et de m'avaler un bon petit-déj. Et j'avoue, ça me... J'ai toujours eu bon appétit et le petit-déj, c'est fondamental. Je suis incapable de passer un petit-déj. Donc, en général, il y a quand même le premier, les biberons des garçons avant. Et ensuite, je me fais mon petit-déj et je suis trop contente. Je passe quand même du temps en cuisine.
D'accord.
Je me fais une vraie pause avant de démarrer la journée. Et ensuite, je vais bosser à pied. Je suis à 20 minutes à pied du boulot. Donc, ça, j'adore ce sas à marcher. J'ai besoin de cette coupure. Donc, je suis contente de marcher. Ensuite, j'arrive à l'atelier. Je me refais un petit café. Puis là, je commence ma journée devant mes mails. Et les journées sont jamais les mêmes. Donc, j'ai pas mal de rendez-vous. J'ai des rendez-vous avec des clientes. En général, je me programme des déjeuners. Donc, j'aime bien avoir... J'aime bien ne pas avoir trop de routine. Alors... J'ai une routine cool dans ma vie de couple et autres, forcément, avec les enfants. Mais j'aime bien avoir des petits plus, quoi. Mmh.
T'as pas de moment particulier pour dessiner des moments plus non. Humains? C'est vraiment non, c'est un
déconstruit.
Peu au fil de l'eau.
Voilà, c'est un peu au fil de l'eau. C'est un peu déconstruit comme journée, mais voilà, j'essaie d'être le plus efficace possible parce que c'est sûr que j'ai pas la même foi qu'avant pour rester jusque 19h30 au boulot.
Ouais.
C'est sûr.
J'allais te demander, tu finis vers quelle heure finalement?
Bah là, ouais, j'ai un petit garçon qui a 9 mois et demi, là, oui. et voilà.
Je
ouais. Donc, en général, je suis partie vers 18h.
C'est déjà une bonne heure. C'est déjà une bonne
ouais.
heure.
Et puis voilà, j'ai arrêté d'être trop scolaire. Moi, il fallait que je sois la première arrivée, la dernière partie. Et en fait, j'ai appris que, voilà, c'est un peu crétin. Et donc, j'ai réussi à avoir des journées plus efficaces. Et il y a des soirs où, voilà, quand je me rends compte que j'ai bien avancé et qu'il fait beau et que je peux aller les voir et éventuellement sortir avec eux. Voilà, je pars à 17h.
T'en profites.
Ouais, j'ai l'impression que depuis que j'ai des enfants et que je suis un peu moins scolaire, je réussis à trouver un meilleur équilibre. Et là, c'est une petite victoire quand je suis tôt à l'appart, que je réussis à les voir. Je me rends compte, évidemment, enfin, comme plein de femmes, mais à quel point c'est important de trouver son équilibre. Enfin, c'est vrai qu'on devient des funambules.
Et puis surtout, ce que je trouve très bien, c'est qu'on sent que tu prends ce temps, mais que tu arrives à ne pas trop te sentir coupable. Parce que souvent, le problème aussi de certaines femmes, après, je fais peut-être des généralités, mais c'est un peu de se dire, OK, il faut que je voie mes enfants, mais d'un autre côté, je vais être sur mes mails en même temps, etc.
Et la force du travail en couple, sans doute. C'est que je me dis, Edouard, il est là. il est sur zone, il gère l'atelier et moi ça me permet d'être de pouvoir partir un peu sereine, je me sens moins coupable. Les filles à l'atelier, elles sont pas livrées à elles-mêmes, même si on a des équipes qui se gèrent sans problème, mais je suis rassurée de me dire voilà, il y a Edouard et moi je peux partir plus tôt et voilà, je sens que j'ai besoin d'être plus avec mes enfants et tout ça, donc
top. Une autre question que j'ai mis à poser par rapport un peu au rythme de vie, c'est tout ce qui est santé, sport, alimentation. Donc alimentation, j'ai compris que le petit déjeuner était clé, t'as bien raison.
Et pas que le petit déj.
Ah, bah, très bien.
Chaque repas a son importance.
au niveau hygiène de vie, est-ce que quand on travaille beaucoup, souvent c'est pas facile justement de prendre soin de soi, en plus toi t'as une famille, est-ce que c'est quelque chose qui est important? Est-ce que t'as des pratiques que tu pourrais me partager? Ça peut être yoga, sport, rien du tout, juste sommeil, qui t'aide?
Alors, absence totale de sport. Je déteste le sport. Donc, voilà. C'est mon petit côté marche. Churchill, no sport.
Très bien.
Mais je marche. J'ai toujours vachement marché. Je fais beaucoup à pied. J'ai jamais pris le métro à Paris. Donc, ça me fait pas peur d'avoir une heure de marche. Donc, j'ai besoin de ça. Je me rends compte, j'ai jamais été qu'une couche tôt, mais là, plus ça va, plus je me rends compte que si je veux être sur tous les fronts, j'ai besoin de dormir. Donc, voilà. Je me couche vraiment plus tôt. Et j'ai... Par chance, on a des enfants qui sont couchés vers 20h et donc on a une vraie soirée.
D'accord, ça c'est cool.
Ouais. Et ça, je me rends compte que j'ai besoin de ce luxe-là où le soir, il y a plus de bruit, on est relax, on peut bouquiner, on n'est pas trop télé, donc on a une vraie soirée et je me couche beaucoup plus tôt. Et ça, ça me fait du bien. Et après, j'ai une échappatoire qui est de plus en plus la cuisine, ouais. J'adore. Enfin, vraiment, j'étais pas du tout cuisine et j'ai investi dans un robot et maintenant je suis excitée comme une puce. Donc, je fais mes biscuits, je fais mes yaourts, je fais mes céréales, mon granola, je fais plein de choses. Et ça, j'avoue, ça me fait du bien le soir. C'est une échappe. Enfin, beaucoup ont besoin de faire yoga ou sport. Ouais. Moi, ça va être d'avoir mon moment où je suis tranquille dans la cuisine.
Ouais, mais c'est ça. C'est un peu un état méditatif comme le sport. Exactement. Ou quoi que ce soit. C'est en gros, tu t'es concentré sur ce que tu fais et pas sur ton boulot, tes enfants, ta vie, tes angoisses. Donc,
exactement.
Il y a pas mal d'études en fait qui expliquent que la cuisine et de façon générale les travaux un peu pratiques en fait, c'est un peu le secret du bonheur, quoi. Donc,
voilà. Non, mais j'y adhère totalement. Donc j'ai ça et puis après, j'avoue marcher. Moi, j'adore quoi, écouter de la musique, me mettre dans une bulle et...
Et quand t'as la pression, comment tu fais pour te décompresser? T'arrives justement à trouver des moyens, tu vois, peut-être des petites méthodes pour quand t'as un rush de commandes et que tu sais pas si tu vas réussir à les honorer, quand il y a un souci, quand, je sais pas, il y a une interview hyper stressante sur le gratin, qu'est-ce que...
Ah bah nuit blanche.
Qu'est-ce que tu mets en place? Ouais, c'est ça, nuit blanche forcément.
Alors... Avec ta question, je me rends compte que je suis quand même pas mal préservée parce que maintenant les rushs de commandes, on a une équipe vraiment géniale à l'atelier qui va, donc il y a pas mal de stress qui sont absorbés par les filles. Ça finit toujours par me revenir aux oreilles. Je suis évidemment sollicitée quand il y a des questions ou autres, mais par chance, je prends plus autant à cœur les choses qu'au tout début où c'était vraiment des sueurs froides. Ouais. Je suis assez épargnée de tout ça et quand j'ai des stress, je sais pas, je sais plus. Enfin, pourtant j'ai encore des stress. J'ai encore des stress, mais j'ai réussi à trouver un équilibre. Il y a quelques années, j'étais bourrée d'eczéma, c'était un cauchemar et je sais que c'était ma manière d'évacuer le stress, sans doute parce que je faisais pas de sport ou autre. C'était le corps qui parlait. Là, j'ai plus rien de tout ça. Je pense que je suis arrivée Alors j'ai des coups de stress, mais je pense qu'avoir des enfants aussi, ça permet de relativiser.
Ouais, bien sûr. Puis bon, t'as plus l'habitude aussi maintenant de les gérer, donc.
Ouais, et puis les gros stress surtout, ça peut être des clientes qui sont très compliquées ou autres, mais maintenant on a suffisamment confiance en notre travail. Je sais quand si l'erreur vient de nous, j'ai évidemment l'humilité de lui dire bah oui, là je suis d'accord, la robe, le zip, il est pas très bien monté, on peut vraiment, on va refaire la jupe. Ça, on n'est pas du tout roublard là-dessus et tout ça. Nous, on a jamais une cliente qui a quitté l'atelier mécontente. Donc maintenant, on a la force de pouvoir, quand on a une cliente vraiment compliquée, de lui dire bah là la robe elle est parfaite et non, on va rien changer. Là, c'est juste le stress du mariage. Parce qu'en fait, on doit gérer en plus ces mariés qui cristallisent pas mal de choses sur la robe.
C'est vrai que ça, j'y avais pas pensé, mais ça doit être un peu dur.
Ouais, parce que la robe, c'est la seule chose palpable et concrète peu de temps avant le mariage. Donc, il y a pas mal de stress cristallisé sur la robe. Donc, non, je pense que l'expérience fait que maintenant, je peux descendre. On peut avoir des clientes qui peuvent être la bête noire d'une modéliste et maintenant je sais plus dire, ça me fait plus peur puisque je sais si, à quel moment on, s'il y a quelque chose à refaire ou si vraiment c'est bon. Donc non, les stress, je pense que ça va être aller réussir à m'échapper de l'atelier, me prendre un petit café, écouter ma musique pour aller bosser, réussir à me mettre dans une bulle. Mais voilà, j'ai l'impression que je suis plus impactée comme je l'étais par le stress.
Bah, c'est une belle victoire, félicitations. Ouais. La dernière question que j'aime bien poser, c'est par rapport à des livres. Alors, t'es littéraire, donc en plus, j'ai hâte d'avoir ta réponse. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des livres qui t'ont particulièrement marqué, inspiré, que peut-être t'as offert aussi particulièrement à des personnes dans ton entourage ?
Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a un livre que j'ai adoré, qui m'avait pas mal marqué. C'était sur Lou Andreas Salomé. Donc, c'était un livre de Françoise Giroux qui s'appelait Lou, Histoire d'une femme libre, je pense. Et c'est un personnage complexe qui m'avait fascinée parce que c'est la première femme psychanalyste. Elle est née, je crois, en 1861. Et ça a été la muse de Nietzsche, du poète Rainer Maria Rilke. Qui a été aussi l'élève de Freud. Et en fait, cette femme, elle est subjugante parce que elle avait une intelligence hors norme. Elle l'a mis à profit en vraiment se lançant dans la psychanalyse. Et elle a mis tous ses hommes à ses pieds, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des photos, non mais, où elle est dans une brouette et c'est Nietzsche et Rilke.
C'est quand même assez cool d'avoir Nietzsche à ses pieds.
Voilà, Rilke et Nietzsche qui sont en train de porter la brouette. Elle est dedans. Et eux, ils sont complètement babas devant l'intelligence de cette femme qui est une femme émancipée, qui est une femme complexe parce qu'elle a eu un refus de la sexualité pendant longtemps. Enfin, et ce livre, il m'a captivée parce que de découvrir l'intelligence de cette femme hyper libre et hors norme par rapport à son temps, bah, ça relie un peu les autres personnages dont je parlais, que ce soit une Coco Chanel ou une Jeanne Toussaint. Et ce livre, j'avais adoré parce que cette femme est fascinante et elle était en plus très très belle, donc c'est vrai qu'on est bluffé par cette femme qui met les hommes. Freud était complètement captivé aussi par elle. Et...
Écoute, ça me donne envie de le lire, je ne l'ai pas lu, mais tu vois, je vais le noter dans les références
déjà. Je l'avais offert pas mal, donc c'est une lecture qui marque.
Bah, écoute, merci beaucoup pour le partage. Pour terminer, si on veut te contacter, te trouver sur le monde du web, donc évidemment, on va sur le site Laure de Sagazan, sur votre compte Instagram aussi, que je mettrai dans les notes. Est-ce qu'il y a des moyens de te contacter d'une manière ou d'une autre quand on est fan ?
Quand on est fan, non. Instagram, c'est pas mal.
Ouais, c'est mieux.
Ouais. C'est un bon moyen de communication, ça permet nous de mettre nos mariés aussi, donc ce qui est sympa, on sort de la mannequin un peu plus lisse. Ouais. Et après, on est aussi à New York depuis 3 ans,
c'est
donc
vrai.
On a notre showroom à New York. Donc
on n'en a pas du tout parlé malheureusement, il va falloir refaire une interview.
Voilà, il faut que je revienne, prenons note. Mais en tout cas, voilà, on a pas mal de points de vente maintenant et on fait vraiment en sorte d'avoir un service.
Et ça, tous les points de vente sont notés en tout cas sur le site.
Sur le site web, exactement. On essaie vraiment d'être présent sans pour autant inonder le marché parce qu'on a bien conscience que la robe est une robe à part. Et...
Complètement.
Voilà.
Merci beaucoup, Laure.
Et bah, c'est moi. Mille merci, Pauline. C'était très sympa.
À bientôt.
À bientôt.
Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas. J'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.